un gros plan sur un autre quotidien du Québec, le Journal de Montréal. Alors, ce qui fait la une du journal, c'est surtout cette confrontation entre le petit Jérémy contre Mike Ward, le petit Jérémy blessé, dégoûté par les propos de l'humoriste et qui se confie en disant qu'il a réellement vécu l'enfer. Également à la une du Journal de Montréal, des scénarios étudiés dès cet automne. Pourquoi? Eh bien, pour la SAQ. Et on se demande si ce ne serait pas la fin du monopole à la SAQ. Et puis, soccer, à la une du journal, une fois n'est pas coutume, c'est Drogba qui s'impose encore dans un cinquième match sans défaite pour l'Impact de Montréal. Ça va donc beaucoup mieux. Alors, je vais donc aller tout de suite dans les pages du journal de Montréal et voir ce que nous dit le petit Jérémy. Je ne vous rappellerai pas ce qu'a dit Mike Ward. Tout le monde a évoqué ces mots franchement disgracieux. C'est le moins qu'on puisse dire à l'encontre de ce jeune handicapé. Jérémy qui a dit j'ai le syndrome Treacher-Collins qui entraîne des difformités à mon visage et à mes oreilles. Et en plus, une surdité sévère et un déficit de mon système immunitaire. Il dit qu'il a subi 23 chirurgies sous anesthésie générale dans sa vie. Excusez-moi. Il dit encore, Jérémy Gabriel, j'ai toujours voulu accepter la personne que j'étais malgré ma différence et réaliser mes rêves. Et là, on me disait que ma vie ne valait pas grand-chose et que si je mourais, ce ne serait pas grave. Je suis désolée, j'ai vraiment quelque chose qui me chatouille au fond de la gorge. Mes amis, je suis en direct. Bon, ça va aller mieux. Pardon et merci. Alors, il dit, moi, je veux continuer ma carrière de chant et atteindre un niveau de popularité internationale même. Hein, il a de l'ambition, le petit Jérémy. Mais avec tout ce que M. Ward a dit sur moi, je ne suis plus en demande. Personne ne veut s'associer à moi. Sa prof de chant, qui s'appelle Nathalie Bourget, a confirmé. Il me disait en pleurant, « Regarde ma face, je suis un vrai monstre. Il n'y a jamais personne qui va m'aimer dans la vie. Ça me fait beaucoup de peine. » Jean Perrunot, le producteur de disques qui aurait voulu produire, qui veut produire un album avec Jérémy, a dit « Je trouvais ça intolérable, ça l'affectait. En studio, il a fallu reprendre plusieurs enregistrements. » Et puis Steve Lavoie, le père adoptif de Jérémy, qui a dit « Le plus horrible, c'est quand il dit qu'il a essayé de noyer mon fils. Ça, ça vient me chercher. Ce qu'il appelle son subwoofer, c'est ce qui permet à Jérémy d'entendre et de s'exprimer. Je ne pouvais pas enlever ça de sur Internet. C'est parti comme une vague. » Alors, il y a un article d'Éric Thibault, justement, sur ce jeune qui s'est fait connaître. Hein, vous vous en souvenez, en chantant devant le pape à Rome. Il s'est vidé le cœur hier au Palais de justice de Montréal, devant le populaire humoriste qui l'appelait le petit tabarnak, dans ses spectacles. Alors, il est âgé maintenant de 18 ans. Ce jeune Jérémy, il dit qu'il a été très blessé, qu'il dénigre ainsi son handicap, qu'il détruit sa réputation, qu'il nuise à sa carrière. Je n'avais pas la maturité pour être fort face à cela et ça a été terrible. Il a même dit que pendant 2 ans, ça a été l'enfer. Un soir en 2012, il avait décidé qu'il se pendrait dans sa garde-robe avec une de ses cravates et heureusement, il ne l'a jamais fait. Steve Lavoie avait témoigné qu'au travail, il a dû remettre quelques collègues à leur place parce qu'il faisait des imitations de Jérémy, comme dans les numéros de M. Ward, sans savoir qu'il s'agissait de son fils. Il a éclaté en sanglots quand la procureure de la commission a demandé si lui et sa femme s'étaient acheté un chalet dans le Nord et un char sport, en paraphrasant un extrait de sketch où l'humoriste dit qu'il faisait de l'argent sur le dos de leur enfant. « Non », a-t-il répondu, « je trouve ça cruel, on a failli le perdre à sa naissance et on a tout fait pour qu'il ait une vie normale. » Il était d'un calme olympien, apparemment Mike Ward, il a tout encaissé, sans rien dire au tribunal. Il témoignera pour sa défense, a annoncé son avocat, maître Julius Gray, mais il devra attendre en février prochain à la reprise de l'audition de cette cause. J'aurais bien des choses à dire à ce moment-là, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée plate pour tout le monde. Il n'y a personne qui veut vraiment être ici, a commandé Mike Ward devant les journalistes. Alors, le fameux niqab, c'est un faux débat selon les musulmans. Des associations musulmanes de Montréal estiment que le débat sur le port du niqab prend trop de place actuellement dans la campagne électorale, alors qu'une faible proportion des musulmans le porte. Ces groupes réagissaient à la prise de position des maires de Montréal, de Québec et de Saguenay contre le port du niqab lors des cérémonies d'assermentation de citoyenneté hier. À la mosquée d'Orval, le président Mehmet Déger en a assez qu'on fasse de la politique sur un enjeu qui touche un nombre négligent de citoyens. Les policiers, les politiciens utilisent cet enjeu à des fins électorales. On ne connaît pas de femmes qui le portent et on fait comme si c'était quelque chose de répandu. Selon le spécialiste des religions et chargé de cours à l'UQAM, Frédéric Castel, une cinquantaine de femmes au Québec portent le niqab. Je répète, une cinquantaine de femmes portent le niqab. Sur les 8,2 millions d'habitants du Québec, cela représente 0,0006% de la population québécoise. Il estime aussi que le port du niqab a subi une instrumentalisation politique au cours des derniers jours. Le sujet a été politisé et on assiste à un positionnement des partis pour tenter de gagner des votes, si on n'était pas en période électorale. Il y a lieu de se demander si les partis auraient aussi clairement pris position de dire M. Castel. Le jeudi, c'est le jour où Mme Denise Bombardier s'exprime dans le Journal de Montréal et elle dit aujourd'hui « Votez, oui, d'accord, mais pour qui ?» J'ai longtemps aimé voter, nous avoue-t-elle. J'ai toujours défendu la nécessité pour un citoyen d'aller exercer ce droit fondamental en démocratie. J'ai longtemps aimé voter. En pénétrant dans le bureau de scrutin, j'éprouvais une émotion particulière, nourrie de la conscience, de la solennité du geste. En effet, un seul vote peut théoriquement changer le résultat. Cette émotion faisait trembler ma main dans l'isoloir lors d'élections symboliques, comme en 1976, alors que le Parti québécois de René Lévesque sollicitait un mandat de gouverner avec un référendum à la clé. J'ai aimé voter au bureau niveau fédéral, en particulier lorsque Brian Mulroney a dirigé le Parti progressiste conservateur, un parti à l'opposé de celui dirigé aujourd'hui par Stephen Harper. Brian Mulroney fut le seul premier ministre du Canada à tenter de choisir un compromis acceptable à la souveraineté du Québec, les accords du lac Meech. Mais alors aujourd'hui, elle nous parle, elle, de ces gens pour qui il faudrait aller voter. Alors elle parle entre autres de Justin Trudeau. Elle dit oui, il possède des convictions, une candeur, bon, l'héritage de sa mère, et ses promesses électorales sont aussi démesurées que passéistes. Sa conception de l'État et son rôle dans l'économie est remise en question dans la quasi-totalité des social-démocraties européennes. En fait, Justin Trudeau oublie qu'il n'est pas le chef du NPD. De plus, sa foi absolue aveugle dans la charte des droits, héritage de son père, qui en chasse les valeurs du pays, rappelle le catéchisme d'antan au Québec. Car Justin est un homme de foi dont on se demande à certains moments si son euphorie à l'exprimer n'a sa source que dans ses idées. Et puis Tom Mulcair n'a pas que deux prénoms, un pour le Canada anglais et un pour le Québec, son passé le meilleur garant de son opportunisme actuel. Flamboyant, vindicatif, avec une retenue toute électorale, il promet aux uns et aux autres. Paradoxalement, c'est le Québec qui lui accorde son succès actuel. Le Québec, dont il a combattu la loi 101 avec un acharnement dérangeant, s'apprête à le couronner. Il doit remercier Justin Trudeau, car ce dernier lui offre l'occasion d'afficher sa modération sur la plupart des enjeux de la campagne. En ce sens, cet ancien ministre libéral est à l'image des politiciens actuels. Sa pensée est moins importante que les sondages et la réalité écrase les visions du futur. Il n'a qu'un objectif, un véritable objectif, devenir Premier ministre du Canada. Dans ces circonstances, voter ressemble à une course d'obstacles. Deux caricatures ce matin dans le Journal de Montréal. Celle d'Y nous présente Mike Ward sur scène avec un chandail sur lequel il est écrit « Liberté d'expression ». Et il est en train de recevoir des tomates et il dit « Je comprends pas, Gab Roy, il l'a trouvé super bonne ma joke ». Et puis, nous sommes dans un des bureaux de l'ONU, alors que l'Arabie Saoudite préside le Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Et monsieur le président, qui a un fouet devant lui et qui est armé d'un couteau, qui porte des lunettes de soleil et le turban que portent beaucoup de Saoudiens, regarde les autres et dit « Bon, qui s'objecte à l'ordre du jour ?» Et puis également dans le journal de Montréal, cette nouvelle un peu plus réjouissante. On parle de super-héros qui se sont lancés dans le vide pour les enfants handicapés. Ce sont près de 60 personnes déguisées en super-héros qui ont descendu en rappel hier la façade d'un édifice de 21 étages situé sur la rue McGill College à Montréal. Et parmi elles se trouvait l'athlète olympique Joanie Rochette et des personnalités médiatiques aussi comme Benoît Cossette ou encore d'autres personnes du genre. Les quelques 100 000 dollars amassés serviront à financer les séjours au camp Papillon d'enfants handicapés à l'été 2016. Et effectivement, on voit Joanie Rochette, et mon Dieu, elle n'a pas froid aux yeux, waouh, 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 en train de... Ben, c'est ça, elle se lance, là. Elle est tout en haut, en bas, on voit la rue, est-ce que c'est Sherbrooke ou Maisonneuve, en tout cas. Ouh, faut pas avoir le vertige, hein? Retour dans le Devoir ce matin, alors que le patron de Volkswagen démissionne. Le patron de Volkswagen, qui s'appelle Martin Winterkorn, a démissionné hier, emporté par le scandale des moteurs truqués qui a pris une ampleur mondiale et qui a déjà fait perdre au groupe des milliards d'euros en bourse. Monsieur Winterkorn a 68 ans, il est depuis 2007 à la tête de Volkswagen et il a assuré dans une déclaration n'être coupable d'aucun manquement, mais dit prendre la responsabilité du scandale et il remet sa démission dans l'intérêt de l'entreprise pour permettre à Volkswagen de prendre un nouveau départ. Le président du conseil de surveillance de Volkswagen, Berthold Huber, a également insisté pour dire que M. Winterkorn n'avait aucune connaissance des manipulations sur les gaz d'échappement des moteurs diesel du groupe devant la presse au siège du groupe à Wolfsburg. Mais l'organe qui veille sur Volkswagen a estimé, à l'issue d'une réunion d'urgence de ses plus hauts responsables mercredi, que le groupe avait besoin d'un nouveau départ crédible. Ceci implique la démission de M. Winterkorn, a-t-il ajouté, en saluant le sens des responsabilités du patron, soulignant que la Corée du Sud, l'Italie, la France et le Canada font partie des pays qui ont lancé des enquêtes contre Volkswagen. Londres en a réclamé une à la Commission européenne. Et puis, on le sait, ce soir, ce sera grande soirée de débat sur Radio-Canada et sur Radio-Québec. C'est présenté à 20h. Et il y a Odile Tremblay qui signe ce matin dans Le Devoir un papier qui s'intitule « La culture aux environs de minuit ». Elle dit « Ce jeudi soir, la culture devrait se frayer un chemin à travers les méandres de cette filandreuse campagne électorale. Après tout, ce débat des chefs en français a pour cadre la maison de Radio-Canada, épicentre de bombardements répétés. Des journalistes attendent leur heure pour poser deux ou trois questions sur la survie de la boîte, sur la culture aussi. Certains candidats, Justin Trudeau en tête, promettent déjà la manne. On verra bien. Si la passion des arts et des lettres n'empêche pas Stephen Harper de dormir, le premier ministre roi du couperet est assis, on s'en félicite, sur un siège éjectable. Car ne lui en déplaise, jamais les enjeux culturels n'ont paru plus cruciaux qu'aujourd'hui. La révolution des nouvelles technologies touche au cœur des missions artistiques, là où tout est à faire, à préserver, à réinventer, en nommant des vigies, en plantant des garde-fous. Que maintenir? Que sacrifier? Il est minuit moins cinq. D'aucuns diront « passé minuit », dit Odile Tremblay. Hors des vraies affaires, en chiffres et en canons, ces questionnements-là, c'est faux. Nombreux sommes-nous à estimer que l'art, l'environnement, la science, la diplomatie, les valeurs d'humanité sont de vraies affaires, justement. Mais côté culture, faudrait combler au plus vite ce manque d'encadrement de la production nationale sur la toile. Culture Montréal réclame une stratégie d'urgence avec raison. Laissons les grands prédateurs du web à la YouTube et Netflix naviguer en rois et maîtres sur cet océan-là. C'est voué, laisser, pardon, les grands prédateurs du web à la YouTube et Netflix naviguer en rois et maîtres. C'est voué la présence artistique canadienne et québécoise au néant des flots. Nos histoires et nos musiques s'y engloutissent. Qui les entendra demain? Quotas francophones, élevés et garantis sur les ondes, redevances aux auteurs en ligne, des sujets à aborder séance tenante et pourquoi pas maintenant, demande Odile Tremblay. On m'avancera qu'au Québec, la culture pète de santé comparativement aux provinces anglophones sans barrière linguistique, à opposer aux géants américains, mais ça barde dans notre cour aussi. Les livres, les films d'auteurs, la chanson francophone, la danse contemporaine et le théâtre sentent le tapis leur glisser sous les pieds. On va aborder maintenant un volet international. Alors, à l'international, aujourd'hui, je vais commencer par un éditorial de Guy Taillefer, aujourd'hui sur les relations sino-américaines. Ça s'appelle « Sous le ciel de Monsieur Xi ». Semaine diplomatique singulièrement chargée pour Barack Obama, après avoir reçu le pape François qui prend la parole jeudi matin. Avant de partir pour New York devant les membres du Congrès réunis en session conjointe, Monsieur Obama accueille en fin de journée le président chinois Xi Jinping. Washington aura reçu la rockstar papal avec affabilité, sinon même avec une certaine ferveur. Il en ira autrement avec le président Xi, étant donné le caractère naturellement tendu des relations sino-américaines. Encore que les États-Unis et la Chine ne savent que trop bien qu'ils n'ont pas d'intérêt au fond à laisser leur rivalité géopolitique mettre à mal leurs relations commerciales, tant ces dernières sont essentiellement au fonctionnement et à la croissance de leurs économies respectives. Il n'est donc pas anodin, avant de débarquer à Washington, que M. Xi soit allé visiter à Everett, dans l'État de Washington, les usines de l'avionneur Boeing, dont China Inc. est un client capital. Dans la même veine, il est de bon augure, à défaut d'être décisif, que les deux grandes puissances mondiales se soient entendues à l'horizon du sommet de Paris sur l'environnement qui aura lieu en décembre pour plafonner leurs émissions de gaz à effet de serre. Les Catalans maintenant, la Catalogne et la menace de la déroute économique. C'est Christian Rioux qui est à Barcelone et qui nous écrit ce matin ces mots. On nous prend pour des cruches, parfois j'ai vraiment honte. Jordi Cuixart a du mal à retenir sa colère à chaque fois qu'il entend comparer la Catalogne à l'Argentine. À 3 jours d'une élection référendaire qui pourrait reporter les indépendantistes au pouvoir, mais cette fois avec le mandat de faire l'indépendance, le mot « corralito » est à la une de tous les grands médias. L'expression désigne la médecine amère qu'a dû avaler l'Argentine pour sortir de la crise à partir de 2001. À 40 ans, avec ses 2 boucles d'oreilles et sa barbe soigneusement négligée, le PDG d'Arano représente une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est elle qui a fait depuis 20 ans le succès économique de la Catalogne, responsable à elle seule du quart des exportations espagnoles. Presque tous les appareils de précision que fabrique Arano depuis 12 ans à Saint-Menat, à 35 km de Barcelone, sont vendus à l'étranger, au grand de l'alimentation. L'entreprise fait même fabriquer des pièces en Ontario. Pour M. Cuixart, les menaces brandies depuis quelques jours sont outrageantes. « Je ne pensais vraiment pas qu'on en arriverait là », dit-il dans son bureau qui surplombe l'usine. « Pensez-vous vraiment que l'on va expulser de l'Union européenne la région la plus riche d'Espagne, où sont installées 6 000 entreprises internationales et qui produit 20% du PIB espagnol avec seulement 16% de la population ?» Ce n'est pas sérieux. Le jour où 50 000 voitures Volkswagen seront bloquées à la frontière française, Angela Merkel téléphonera au président espagnol pour calmer le jeu. Nous sommes des pragmatiques. Il y a quelques années, ce PDG est devenu le vice-président d'Omnium Cultural, la grande organisation citoyenne qui a mobilisé 1 million de personnes le 10 juillet 2010. Ce fut, on se souvient des images, la première de ces manifestations monstres qui ponctuent dorénavant la vie de la Catalogne. Comme chef d'entreprise, il supporte mal les décisions de Madrid qui nuisent, dit-il, à l'économie catalane. Cela fait par exemple un demi-siècle que les Catalans attendent la construction d'un lien ferroviaire entre le port et l'aéroport de Barcelone. Mais Madrid préfère, dit-il, construire des kilomètres de TGV dans des régions où ils ne servent à rien. À 3 jours du scrutin, on n'a pas encore vu de camion de la Brinks faire semblant de quitter le pays comme au Québec en 70, mais le climat est le même. Albert Rivera Díaz, candidat du nouveau parti unioniste de droite, Ciudadans, qui pourrait arriver second dimanche, a même ironisé en parlant du Pourolet, la version catalane de la piastre à l'évêque, du nom du leader nationaliste Jordi Pujol. Une photo qui parle, la photo du journaliste canadien Mohamed Fahmy qui a retrouvé sa femme Marwa Omara après sa sortie de prison hier. Le journaliste canadien Mohamed Fahmy et son collègue Baher Mohamed, tous deux employés de la chaîne d'information Al Jazeera, qui ont reçu le pardon présidentiel égyptien hier. En tout, ce sont 100 personnes, dont des dizaines de militants des droits de l'homme, qui ont reçu le pardon du président Abdel Fattah al-Sissi à la veille de la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha, qui est habituellement l'occasion de gracier des prisonniers. Ailleurs sur la planète, 2 soldats israéliens mettent en joue une femme vêtue d'un niqab à un poste de contrôle. Quelques instants plus tard, la jeune palestinienne Adel al-Ashlamoun est abattue. Ces photos percutantes qui montreraient l'affrontement fatidique ont fait le tour du monde hier. Même si la mort de l'étudiante de 18 ans a suscité la colère des Palestiniens, il y a peu de chances qu'elle devienne l'Eilan Kurdi du conflit, selon des experts. Dans la ville de Hébron, poudrière des territoires palestiniens occupés, la tension était à son comble hier. Transportant la dépouille de la jeune Adel al-Ashlamoun, des milliers de Palestiniens ont bruyamment manifesté durant les funérailles. Des violences ont ensuite éclaté entre une 50aine de jeunes et l'armée israélienne. Ces nouveaux heurts surviennent une semaine après les affrontements sur l'esplanade des mosquées. lieu vénéré tant par les juifs que par les musulmans. L'armée israélienne soutient que l'étudiante palestinienne a été abattue mardi alors qu'elle tentait de poignarder un soldat. Alors qu'elle tentait de poignarder un soldat dans un poste de contrôle de Hébron. Elle voulait alors se rendre sur Chouada dans un quartier où résident sous haute protection des centaines de colons israéliens. Pour appuyer ses dires, l'armée a diffusé une photo montrant un couteau sur le sol près des lieux du drame. Or, l'organisation palestinienne Youth Against Settlements a remis en question la version des autorités israéliennes hier en diffusant une série de photos qui montreraient les derniers instants de la jeune Adèle. Celle-ci aurait eu peur quand les soldats lui ont demandé de lever son niqab, soutient l'organisation. Et puis, ce n'est pas encore dans les journaux, mais c'est en manchette depuis ce matin. Près de 720 fidèles ont été tués et des centaines de blessés dans une bousculade jeudi à Mina, près de la Mecque. L'un des pires drames a frappé le grand pèlerinage dans le premier lieu saint de l'islam. Depuis l'annonce le matin de cette tragédie la plus meurtrière a endeuillé le Hadj depuis 25 ans, le bilan des victimes de différentes nationalités n'a cessé de grimper, faisant craindre un nombre de victimes encore plus lourd. Selon un responsable du ministère de la Santé, la bousculade, qui s'est produite lors du rituel de la lapidation de Satan, qui consiste pour les pèlerins à jeter des cailloux vers trois stèles le représentant, un choc entre une marée humaine quittant l'une des stèles et une foule venant en sens inverse a provoqué le drame. Dans la première réaction officielle après le drame survenu au premier jour de l'Aïd al-Adha, le ministre de la Santé, Khaled Al-Faleh, a attribué la bousculade au manque de discipline des pèlerins. Si les pèlerins avaient suivi les instructions, on aurait pu éviter ce genre d'accident, a-t-il dit à la télévision. Après s'être rendu à Mina, de nombreux pèlerins se mettent en mouvement sans respecter les horaires fixés par les responsables de la gestion des rites. C'est la raison principale de ce genre d'accident, a-t-il affirmé, tout en promettant une enquête rapide et transparente. Selon le dernier bilan fourni par la défense civile, 717 personnes ont péri et 863 autres ont été blessées dans la bousculade. L'Iran, qui a eu 43 morts parmi ses pèlerins, a attribué la tragédie à des failles dans le dispositif de sécurité, un vice-ministre accusant Riyad d'irresponsabilité. Écoutez, les images sont insupportables, des images vidéo qui sont publiées en ligne, qui montrent de nombreux corps inertes qui jonchent le sol, recouverts ou non de draps blancs, ainsi que des affaires personnelles éparpillées, des chaussures, des parapluies dont les pèlerins se servent notamment pour se protéger du soleil. On se quitte quelques minutes, ne manquez pas Kevin Breton au retour de la pause et puis ensuite je serai là avec Christiane Campagna et nous irons voir un peu ce que nous réserve l'actualité régionale.
Eh bien, l'impact a joué avec le feu hier soir. C'est un titre qui m'a bien fait rire dans le Journal de Montréal d'hier, un titre de Dave Lévesque qui fait référence effectivement à la défaite du Fire de Chicago face à l'Impact de Montréal qui aura finalement eu besoin de tout son petit change pour venir à bout de cette équipe. C'est Kevin Breton et on s'en va au sport immédiatement. Eh bien, c'est toute qu'une entrée en matière et sur ces nobles notes que je viens vous lire le meilleur de l'actualité sportive. En ce jeudi 24 septembre, une bien triste nouvelle pour commencer ce rapport de nouvelles. En fait, le décès du célèbre receveur des Yankees, Yogi Berra, qui est décédé à l'âge de 90 ans hier soir, selon le musée Yogi Berra. Le joueur est décédé dans son sommeil de cause naturelle à West Caldwell, au New Jersey. Berra a porté les couleurs, il faut le rappeler, des Yankees pendant 18 saisons, de 1946 à 1963. Le natif de Saint-Louis, au Missouri, a participé aux moments les plus glorieux de l'organisation, gagnant la Série mondiale à 10 reprises. Non, c'est pas mal du tout, hein, sur 18 saisons, 10 championnats. C'était lui qui était derrière le marbre lors du match parfait de Don Larsen, le seul à avoir été réalisé en Série mondiale en 1956, cette fois-là. L'héritage de Yogi Berra transcende le baseball, a soutenu le principal propriétaire des Bombardiers du Bronx, Al Strandbrenner, dans un communiqué qu'il a émis hier matin. Même s'il était physiquement petit, il a été un géant en servant son pays à la guerre et en démontrant un enthousiasme débordant pour le sport qu'il aimait tant. Il sera toujours un modèle à suivre et un héros vers lequel l'Amérique pourra se tourner. Reconnu pour ses citations savoureuses, qu'on appelle les yogiismes, que je vais vous lire un peu plus tard, notamment « Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini », Berra s'est également imposé comme un athlète d'exception sur le terrain. Mesurant seulement 5 pieds et 7 pouces, Berra est parvenu à remporter 3 fois le titre de joueur le plus utile de la Ligue américaine, tout en étant invité au match des étoiles lors de 15 saisons consécutives. Le journal de Montréal a fait un ramassis de quelques-unes des citations les plus savoureuses de Yogi Berra, et je vais vous en lire quelques-unes là, pour mettre un peu de joie dans cette triste nouvelle. D'abord, il dit « On peut observer beaucoup en regardant. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, je l'ai dit tantôt. Si le monde était parfait, il ne le serait pas. Je n'ai jamais dit la plupart des choses que j'ai dites. » Le baseball est 90% mental, l'autre moitié c'est physique, hein, c'était pas un mathématicien, c'est Yogi Berra. Plus personne ne va à ce restaurant, il est trop populaire. L'amour est la chose la plus importante au monde, mais le baseball est plutôt bien aussi. On n'a pas ces équivalents-là au Québec avec ce qu'on appelle les péronismes de Jean Perron, qui nous font tous bien sourire, là. J'ai en mémoire... Ses livres se sont vendus comme des petits ponchos. Une citation qu'on doit à Jean Perron. Donc voilà. J'en parlais un peu plus tôt. L'Impact aurait eu besoin de tout son petit change, mais est finalement venu à bout du Fire de Chicago, l'emportant 2-1 hier soir. Alors que ma voix brise, je m'en excuse. C'est un texte signé Dave Lévesque dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Il aura fallu le premier but d'Andrés Romero depuis le 6 juin pour permettre à l'Impact de mettre la main sur les 3 points. Romero, qui était entré 4 minutes plus tôt, a profité d'une belle passe de Patrice Bernier derrière la défense centrale pour marquer à la 76e. Le capitaine a donc pu célébrer son 36e anniversaire. Didier Drogba avait ouvert la marque un peu plus tôt avec son 5e de la saison en première demi. L'entraîneur Mauro Biello a dit « On a été capable de compter le premier but et on a fait des erreurs coûteuses, mais on a montré du caractère en marquant le deuxième. » L'Impact occupe maintenant le 6e rang dans l'Est avec 29 points, seulement un de moins que Toronto, et dispose d'un match en main sur le Toronto Football Club. Laurent Simon a toutefois écopé d'un second jaune à la 91e minute et sera donc suspendu samedi. Le Fire a bien amorcé la seconde demi en marquant un but plutôt étrange. Victor Cabrera ayant mal jugé un long ballon, Gilberto en a profité mais a été volé par Evan Bush qui a dévié le ballon de la main. La balle s'est retrouvée sur le poteau gauche. Donny Toya n'a pas pu le dégager et David Hakam a finalement sauté dessus pour créer l'égalité avec son 9e de la saison. Hakam aurait pu assommer l'Impact à la 73e minute à la suite d'une mauvaise remise de Cabrera mais a tiré hors cible. Il faut dire que les 30 premières minutes du match auront donné lieu à un jeu sporifique et parfois somnifère. Dominant dans la plupart des catégories statistiques, l'Impact a quand même vu le Fire avoir les meilleures occasions. Dès la 16e minute, Gilberto a profité d'un mauvais rebond après un dégagement raté pour se présenter seul devant Evan Bush. Ce dernier l'a défié et tout au long a pu effleurer le ballon du bout des doigts. Chicago a aussi profité d'un surnombre à trois hommes, mais Hakam a complètement raté son tir qui est allé choir à côté du filet de Bush. C'est un texte, je le rappelle, de Dave Lévesque dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Texte que j'ai pris dans Le Droit ce matin, qui est signé de Marc Brassard, qui raconte en fait la victoire de l'équipe B des Sénateurs d'Ottawa, qui n'a pas fait de quartier face à leur ancien gardien Robin Lehner mercredi soir au First Niagara Center, parce que le Canadien a, oui, commencé son match, son calendrier préparatoire, mais c'est aussi le cas pour les Sénateurs d'Ottawa. Ils ont gâché les débuts de Lehner dans l'uniforme des Sabres de Buffalo en remportant leur premier gain du calendrier préparatoire par une marque de 5-2. Utilisant le strict minimum de joueurs avec de l'expérience dans la LNH, alors que leurs adversaires ont employé une douzaine de vétérans, les Sénateurs ne s'en sont pas laissés imposer. Le nouveau gardien de l'avenir de l'organisation, Matt O'Connor, a damé le pion à son prédécesseur pour ce titre en repoussant tous les 18 tirs auxquels il a fait face pendant ses 29 minutes et 26 secondes de jeu. L'autre jeune gardien de l'organisation, Chris Digger, a perdu son blanchissage quand Kane l'a déjoué d'un tir au loin en désavantage numérique et il en a ajouté un autre sur une attaque à 5 en fin de rencontre. Il a quand même repoussé 22 lancers. À l'autre bout, Lehner, cédé au sabre avec David Leguane contre un choix de première ronde cet été, a été déjoué deux fois sur 19 tirs. Je rappelle que le Canadien va jouer ce soir contre les Capitals de Washington, mais si le hockey vous intéresse pas, ben il y a aussi le débat électoral ce soir. Eh bien, en terminant, le Beauceron Max Gilbert est bien parti et a dominé au championnat de l'AGP. Celui-ci a remis une carte de 64, 8 coups sous la normale pour s'emparer de la tête au terme de la première ronde du championnat TaylorMade Adidas Golf Honda hier sur les allées du parcours La Seigneurie du club Montcalm, un article que j'ai choisi à la fois parce que je connais un peu Maxime Gilbert, qui est aussi de la Beauce, tout comme moi, et parce que je sais que Clotilde aime beaucoup le golf. Voilà pour les sports aujourd'hui.
Merci, merci beaucoup. Puis alors, merci de nous avoir fait rire avec les citations. Célèbre. Moi, celle que je préfère, c'est je n'ai jamais dit la plupart des choses que j'ai dites. Moi, celle-ci, je la trouve.
Mais je disais un petit peu plus tôt qu'on avait l'équivalent au Québec avec les péronistes.
Mais oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais moi, je pense qu'en fait, M. Perron est un espèce d'enfant, peut-être pas naturel, mais.
Et dans les deux cas, les gens ont fini par en inventer à leur attribuer.
Oui, c'est ça.
C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Kevin
Merci
Breton.
À vous.
Bien, à bientôt. Merci. Rebonjour Christiane Campagna.
Bonjour Clotilde.
Vous nous parlez d'histoire?
Oui, il est paru deux textes cette semaine. Sur le site de Radio-Canada, souvent il y a des textes en complément, oui, des reportages audio. Dans ce cas-ci, c'est un texte de René Saint-Louis, un ancien collègue de classe d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai!
Au secondaire et au collégial. Et de Jean-François Nadeau dans Le Devoir. Et c'est drôle, René Saint-Louis interview l'ancien colloque de Jean-François Nadeau. Mais ça, c'est...
Oula,
oui,
attendez,
je
bon,
et un ancien collègue de travail à moi. Je connais tout le monde.
Ça reste en famille.
dans le milieu de l'histoire est petit.
Ah oui, hein?
Voilà. Oui, c'est le régiment Carignan-Salière dont on fête ces jours-ci.
Redites-moi ça.
Le régiment Carignan-Salière. C'est un régiment qui a été envoyé par le roi de France au 17e siècle et dont on fête justement le 350e anniversaire de l'arrivée ces jours-ci. Alors, je vais commencer avec quelques petits bouts de l'article de Jean-François Nadeau qui est paru le 15 septembre dernier dans Le Devoir. Près d'un million de Québécois et de Nord-Américains sont des descendants de 285 soldats arrivés au Nouveau Monde sous les couleurs du régiment Carignan-Salière. En 1660, la situation de la colonie française apparaît misérable. L'opposition vive des Iroquois bloque toute tentative d'expansion. Louis XIV, le roi Soleil, a 26 ans lorsqu'il consent à envoyer en Nouvelle-France un détachement des armées de la couronne. 1300 soldats du régiment Carignan-Salière partent conquérir le territoire au bénéfice d'une société qui ne compte à leur guère plus de 3500 personnes. Les soldats du roi prennent la mer en 1665 après avoir vaincu les Turcs en Hongrie. Et les bateaux qui les transportent arrivent un à un à partir du 19 juin. Et dans le texte de René Saint-Louis, on dit « Après 2 ans de campagne militaire, un traité de paix est finalement signé avec la Ligue iroquoise des Cinq Nations. Le régiment est alors démobilisé et les 2/3 des soldats rentrent en France. » Cependant, là, il n'a pas les mêmes chiffres que Jean-François Nadeau, mais 400 militaires acceptent l'offre du roi de s'installer définitivement dans la colonie. Terre, nourriture pour un an, argent et même des seigneuries leur sont offertes. La moitié épouseront l'une des filles du roi. Et justement, selon l'historien et généalogiste Marcel Fournier, la venue de ces soldats est aussi importante que celle des 850 filles du roi, arrivées entre 1663 et 1773. D'après moi, le facteur le plus significatif, c'est la descendance que tous ces soldats-là ont laissée. Ils sont dans l'arbre généalogique de la plupart des Québécois, qu'on pense à l'astronaute Julie Payette, l'humoriste Dominique Michel, le maire de Montréal Denis Coderre, l'ancien premier ministre Jacques Parizeau, le chanteur Gilles Vigneault. Environ 750 000 Québécois ont un soldat de ce régiment dans leur histoire généalogique proche, pas éloignée, parce que là, tout le monde est parent.
C'est incroyable. Ça me fascine toujours. Parce que je sais que, par exemple, les Québécois sont très fascinés quand ils vont en France et qu'ils regardent les noms des gens. Parce que nous, il y a à peu près, je ne sais pas, il y a des millions de noms de familles différents. Alors qu'ici, il n'y en a pas tant que ça. Et on sait pourquoi. Hein. C'est vrai qu'au départ, il y a quand même... il n'y a pas tant de monde que ça à l'origine de ce peuple québécois.
Oui, et le long du fleuve, ça a vraiment marqué la toponymie, comme le souligne le vulgarisateur historique David Ledoyen. Ils ont fondé la plupart des villages de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre Repentigny et Louisville. La région, les seigneuries concédées aux officiers du régiment sont les plus concentrées dans le coin du Richelieu et du Saint-Laurent. Berthier, Lanoraie, La Valtrie, Sorel, Saint-Ours, Contrecoeur, Verchères, Chambly sont tous des noms liés au régiment Carignan-Salière. Et aussi, quand on dit Chambly, on dit fort. Ils avaient pour mandat de construire des forts. Et il reste des traces au Québec du fort Saint-Jean et du fort Chambly, surtout, qui est un site de Parc Canada.
Merci beaucoup, Christiane Campagna, qu'on va retrouver en fin d'émission. Christiane, c'est vous qui allez nous présenter le bulletin du handicap, mais pour l'instant, on s'en va en région. Et on commence avec le droit, et ce qui fait la une, c'est que le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, a lancé quelques flèches hier à l'occasion de son conseil municipal, et il a surtout utilisé son droit de veto, et ça, c'est extraordinairement rare. Mathieu Bélanger qui écrit « Le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, est revenu hier sur sa décision d'apposer son veto pour bloquer. » Ah, donc, il est revenu dessus, finalement, pour bloquer la résolution majoritaire du conseil municipal menant à la création d'un comité d'élus qui devra participer aux travaux et à l'analyse des propositions entre les mains des fonctionnaires pour sauver les Olympiques de Gatineau. Visiblement, le maire Pedneau-Jobin n'accorde aucune crédibilité et aucune pertinence à cette résolution parrainée par le conseiller Mike Duggan. Et il y a une chronique ce matin à ce sujet, toujours dans le droit. Elle est signée Mathieu Duquette. Si mon iPad ne gèle pas, je vais vous sortir ça dans quelques secondes. Le voici, ce papier. Ça s'appelle « L'arme suprême ». Et il écrit, Duquette, à un maire qui sort son droit de veto alors qu'il n'est pas rendu à mi-mandat, c'est le signe évident que quelque chose ne tourne pas rond. Ah, voilà, excusez-moi, j'avais perdu mon article à nouveau, mais je l'ai retrouvé. Alors qu'il n'est pas rendu encore à mi-mandat, c'est effectivement le signe que quelque chose ne tourne pas rond. Et c'est pourtant ce qu'a fait Maxime Jobin mardi soir. Il a fait ce qu'aucun autre maire de Gatineau n'a osé faire avant lui, soit opposer son veto à une décision majoritaire hein, du conseil municipal. Le droit de veto, nous dit Duquette, c'est l'arme suprême du maire au Québec. C'est une mesure de dernier recours à utiliser avec parcimonie et dans des circonstances exceptionnelles. En 15 ans de journalisme, dit Duquette, dont la plus grande partie à couvrir le monde municipal en Outaouais, je ne me rappelle pas d'un cas où un maire a eu recours au veto. Et c'est parfait ainsi. La population s'attend à ce que ces élus municipaux fassent tout en leur possible pour s'entendre entre eux malgré leurs divergences d'opinion. Elle s'attend aussi à ce que le résultat du vote qui s'ensuit soit respecté. Pas à ce que le maire bloque une décision prise par une majorité d'élus. Quand un maire oppose son veto, il a pour ainsi dire le fardeau de la preuve à lui de démontrer qu'il se devait d'agir ainsi dans l'intérêt supérieur des citoyens. Or, dans ce cas-ci, c'est tout sauf clair. Parce qu'en usant de son droit de veto, le maire de Gatineau poursuivait d'abord et avant tout un objectif politique. Il voulait lancer un signal clair à la clique d'élus qu'il accuse de faire cavalier seul dans le dossier de l'aréna Guertin. Il a voulu leur rappeler que c'est lui le patron et que c'est à lui, à titre de maire, d'agir comme porte-parole de la ville de Gatineau auprès des partenaires potentiels du futur aréna, que ce soit des promoteurs ou des députés provinciaux. Et là-dessus, dit Duquette, il a raison. C'est la prérogative du maire de négocier avec des partenaires dans les limites de la résolution que le conseil municipal a approuvée par une courte majorité en juin dernier. Le maire Pedneau-Jobin s'est senti d'autant plus justifié d'user de son droit de veto que la résolution présentée par ses adversaires mardi soir était teintée d'une mauvaise foi évidente. Tout en accusant le maire de manquer de transparence, le conseiller Mike Duggan admettait qu'il n'a jamais demandé de l'information au maire dans le dossier des Olympiques. Et puis, ça n'a pas d'allure, dit Duquette, que des conseillers comme Duggan ou Sylvie Gonneau exhortent le maire à les associer de près aux négociations avec les partenaires potentiels du futur aréna, alors que tous deux ont voté contre la résolution du maire. Et quelques informations culturelles maintenant, c'est parti. Et puis Denis Graton nous amène chez Denise. Denise Tessier qui est fébrile. On va fêter ce soir les 50 années d'existence du comptoir Saint-Vincent de Paul de Hall sur la rue Eddy. Et pour cette Holloise de 84 ans, ce n'est pas un simple comptoir qui vient en aide aux démunis depuis un demi-siècle qu'on va célébrer. Mais c'est sa deuxième famille et c'est sa vie. C'est un comptoir qui a été fondé par l'homme d'affaires Eugène Tassé, qui a ouvert ses portes en 1965. Madame Tessier a commencé comme
tiens,
bénévole
parlons d'humour
deux ans
un peu,
plus tard,
avec
en 1967,
de premier,
et comme elle dit,
l'humour,
je n'ai pas mis
ayant
attiré
le
plus de spectateurs payants au Québec en 2014.
A reçu elle a travaillé comme bénévole, puis employée au salaire minimum
pendant 14 ans. Madame Tessier, qui a été nommée gérante de ce comptoir à Saint-Vincent-de-Paul de Hall,
la rencontrée pour évoquer sa carrière, qui
fructifie aussi en Europe, en Afrique et bientôt aux États-Unis et en Australie.
Elle n'a jamais demandé plus que 10
dollars de l'heure au cours de mes 25 années à la gérance. Ça me fait énormément plaisir, surtout que pour un deuxième spectacle, c'est toujours difficile.
Alors voilà, si vous avez l'occasion peut-être
notre mission est réussie, alors que ce soir,
ça ne fait pas encore deux ans qu'on a présenté
l'existence du comptoir Saint-Vincent-de-Paul de
vendre
200 000 billets,
c'est pour moi une énorme marque de confiance
à Madame Québécoise.
Je ne vais pas pour autant m'asseoir
sur mes lauriers,
mais ça m'encourage à être encore meilleur
au fil des
fois.
Badouri, qui va fêter ses 39 ans à Montréal en présentant une dernière fois Rechargé les 16 et 17 octobre au Théâtre Saint-Denis. Il le présentera à partir de l'automne 2016 en France, où il amorcera son rodage en janvier. Il a dit qu'il allait l'adopter totalement pour le marché français, car, je cite M. Badoui, je sais ce qu'ils attendent de moi maintenant.
Alors,
ici, on voulait
ça
que
fait
je
la
m'ouvre
une
un peu plus sur ma vue, mais là-bas,
du soleil ce matin, les
là,
villes
ils
qui disent
encore
oui
la
au pacte
et le fiscal,
chômage,
et puis ça marche aussi,
les membres de l'Union des municipalités du Québec,
ça marche aussi,
ont voté à 80% en faveur du pacte fiscal
aux États-Unis sur le
proposé par le gouvernement
hier,
une entente sans
lien financier
à court terme,
ça marche
mais
aussi
mais qui confère
au
maire
plus de pouvoir
par celui de décréter les conditions
avec
de travail des
le comédien
employés.
Français Richard Berry.
On n'a pas l'argent qu'on aurait souhaité.
Le gouvernement
est père-fils
à
concéder
le maire
de
la
Québec, Régis
Labeaume,
à la sortie de la
Gaudreau.
Il s'agit de la version française
qui s'est tenue en fin de journée hier au centre de Congrès et d'exposition
en partie dans les gorges du Verdon.
On avait l'opportunité d'aller chercher autre chose que de l'argent, des choses qui ne passent pas souvent.
Dans ces temps-là,
on vient de bouleverser les relations de travail au Québec
et
dans le domaine
municipal.
Savoir, et Badoury qui sait
c'est
à l'avantage de tous les
ce coin
payeurs
de, pays est
de taxes.
Je me suis même fait une
toujours
peur
dans
à cause
le
d'un
soleil
un soir alors que je marchais tout seul dans le bas du
aussi
village.
Autre chose à un sanglier, sur le
il aurait pu
sujet.
Me défoncer.
Ça va
même
venir.
Si je lui avais
on
dit
mettre
je
un petit peu de
port.
Musique et puis la page va bien finir par s'ouvrir. Festival international de littérature qui s'est ouvert à Montréal et cela donne lieu à un papier fort intéressant de Caroline Monpetit dans Le Devoir. Ça s'appelle Les maisons de papier du fil.
Donc, comme eh bien, écoutez, c'est bien dommage, mais le soleil ne répond plus à nulle part. Alors, il n'y aura pas d'autres articles dans le soleil.
Certains doivent
pour maintenant,
des je suis passé directement à la volumineuse bibliothèque.
Une
au fil des ans et des aménagements, pourtant les livres
ne suivent. Il
bien
une personne sur sept.
Mais alors, question.
Avec
un problème de santé mentale en estrie.
Eh bien, la question obsède depuis longtemps Michel Corbeil, la directrice du Festival international de littérature de Montréal.
Et
elle a choisi d'en faire le thème d'un café philosophique
environ
festival. Mais aussi du spectacle
vivent avec
le
un
paradis
n'est-il
pas
une
santé mentale en
Estie qui jongle avec les bibliothèques
René
cachées dans les œuvres
d'auteurs.
La direction
de
la santé publique en
Estie
a dressé ce contrat
dans une mise en scène de Catherine Vidal
hier,
alors
Marc Bellan,
que les problèmes
Renaud
de santé mentale
Simon Lacroix, Marie-Ève Pelletier et Dominique Quesnel
soit la prévalence
visiteront
la
aussi les bibliothèques de Georges Perec, de Montaigne ou d'Alberto Manguel et de Michel Tremblay.
Dans cette région tellement
dans un ange cornu avec des
le dévoilement du rapport
prioriser
la
santé mentale et le bien-être en Estrie permet de constater qu'en
se rendre à la bibliothèque
que sa grand-mère avec un problème de santé mentale dans
la région
n'a rien de valorisant
c'est ça et celle donc où le taux
proche de la condition d'ouvrier
sachez-le pour être
prévalence des problèmes
de
santé mentale a doublé chez les jeunes de 1 à 17 ans au cours
des 10 dernières années
passant
de 5,2%
et être quelqu'un de 2,6%
aucune initiative
la région estrienne domine sous cet ordre
à l'échelle
infailliblement.
Le comportement des jeunes, comme
Georges Perec, lui,
la consommation
de drogue,
pas de telle
leur
santé.
Il le montre bien dans son livre Pensée.
La prévalence
d'un extrait sur
la santé mentale diffère d'un secteur à l'autre.
Je les promène d'une pièce à l'autre.
Dans le même arrondissement du
Mont-Bellevue,
on constate qu'au centre-ville,
il arrive de passer
3 heures
à chercher un livre sans le trouver, mais
22 fois plus élevé que dans le secteur Sainte-Catherine, par exemple,
découvrir
près de
l'université
située à moins de 5
km.
C'est assez incroyable.
Le constat de la direction de la santé est choisi.
Pour leur tête
que
de
nombre
l'emploi,
de personnes
leur, leur amour des livres,
pour un trouble
il fallait qu'on y
de
croit, explique
Catherine
les troubles
anxieux
Vidal.
Ou dépressifs, les
le paradis
de la
n'est-il pas une
la
bibliothèque
s'est
présentée ce vendredi
québécoise.
À la grande
plus
bibliothèque
de 60 000 interventions
par ailleurs,
sont effectuées annuellement
ans,
en première ligne en matière de santé mentale
le lendemain,
dans le réseau
un café philosophique sur le thème de la bibliothèque se
les adultes plus résilients
ont 14
fois moins de chances d'avoir une santé mentale
sous le thème
4
fois moins
de chances
d'avoir un trouble anxieux de l'humeur que les adultes apparemment
Corbeil, à force de voir des gens
enfin,
en déménagement,
que j'aurais
aimé
que
cet article
que faire
de leur bibliothèque montée et acquise au fil de leur vie,
c'est
qui a aujourd'hui le pouvoir de décider de ce qui demeure et de ce qui doit disparaître
et plus qu'ailleurs, ça amène toute la question de la mémoire.
Nulle part d'ailleurs, je n'ai trouvé la
qu'adviendra-t-il à l'heure
dans
du numérique
à ces journaux intimes, des correspondances par courriel.
Le secret de la caramilique maintenant, ça c'est un... C'est une... Nous sommes dans le quotidien, et c'est Joël Martel qui va de cette chronique, comme tous les jeudis,
Il dit, je dis souvent, mais il faut quand même admettre que la vie est drôlement faite.
Vous voyez, ce soir, Guilla et compagnie reprennent une espèce service, de don qui fait en forcote et tout ça. Fait en sorte que pré-enregistre l'émission qui sera maison, diffusée un dimanche.
Je suis débordé de travail.
Nouvelle saison pour tout le monde en parle. Si vous voulez savoir qui sera sur le plateau, Stéphanie Trudeau, mieux connue sous le nom de Matricule 728. Il y aura aussi l'ex-bâtonnière Lu Changkuang, Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin pour la série Boomerang, Philippe Falardeau et Patrick Huard pour le film Guy Borges va en guerre, Fabrice de Pierrebourg et Vincent Larouche pour le livre Jihad.ca et la romancière américaine Anna Todd.
Et que aussi il se trouve que à Pied-à-Chaud, là, à Pied-à-Chaud, Jean-Charles.
Et puis, Stromae annule un spectacle. Les femmes de Stromae venues assister au concert de leur idole au Midnight Live Event Center de Minneapolis mardi soir ont appris sur place que le spectacle était annulé. La sensation belge de la chanson a dit que la réforme fait en raison d'un petit accident, a annoncé un membre de son équipe au public. Une intervention captée par une vidéo amateur, aucun détail n'a filtré sur les circonstances de l'accident. Alors c'est sur le sort du reste de sa tournée nord-américaine. Stromae doit, brevet en principe, Salada, se produire demain à Royal Oak au Michigan, ce puis à Toronto et à Montréal. Et pour le moment, les concerts prévus au Centre Bell lundi et mardi prochain sont maintenus, a assuré hier le promoteur Evenco. Rappelons que le chanteur a annulé déjà une série de spectacles cet été pour des raisons médicales.
C'est un enzyme. Et figurez-vous que cette enzyme fait en sorte que le caramel durcit pour fondre ensuite, quelques heures plus tard, une fois qu'on l'a emprisonné dans le chocolat. Ah ! Autrement dit, quand il fabrique la chose, le caramel est dur, et dès qu'il le recouvre de chocolat, le caramel ramollit sans se mélanger au chocolat.
Oh, ça, on pourrait s'endormir. Denis Villeneuve est également à l'honneur dans tous les cahiers culturels du jour, dans les quotidiens. Denis Villeneuve en entrevue, notamment pour Le Devoir. Odile Tremblay nous raconte cette rencontre. Le titre, c'est Entre Sicario et Blade Runner. Ça baigne pour le Sicario de Denis Villeneuve. Critique globalement positive en France et en Angleterre, comme au Festival de Toronto. Débarque annonce pour la communauté 6 écrans aux États-Unis avant déploiement ce vendredi dans les cinémas nord-américains. Ici aussi, puis sur davantage d'écrans encore le 2 octobre. Quand Sicario avait été lancé à Cannes, j'avais prévenu mes enfants que je me ferais peut-être lancer des tomates. Un film d'action grand public en compétition là-bas. Et puis quelques opinions. À ses yeux, les films d'action sont trop souvent traités en dessous de la jambe, comme genre mineur, parfois snobé, tant certains deviennent, il est vrai, grotesques à force d'aligner carambolage et explosion. Mais aux États-Unis, on ne fait pas que des Fast and Furious. Sans vouloir se comparer à ses maîtres, Denis Villeneuve rappelle que Kurosawa, Michael Mann, Scorsese ont réalisé après tout des films d'action. De son côté, dans Sicario, il a tourné des scènes de meurtre avec une vérité d'observation de terrain qu'il avoue tirée de l'héritage québécois du cinéma direct, comme de la sensibilité, de la souplesse de son directeur photo, le grand Roger Deakins, à moins que ce soit Roger Deakins. Mais je pense pas, je dirais Roger Deakins. A-t-il du temps en vue pour la campagne pré-Oscar de ce narcopolar avec Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin, perçant l'espace frontalier entre les États-Unis et le Mexique? Il n'aime pas prendre des rêves pour des réalités, élude la question. On verra bien. Lionsgate envisage même d'offrir une suite à Sicario sur laquelle le scénariste Taylor Sheridan planche déjà, avec ou sans Villeneuve à la réalisation. Lui qui a tant de pain sur la planche l'ignore encore. On se souvient qu'à l'heure de tourner ses films ici avec des budgets québécois, son grand regret était de ne pas pouvoir verser dans la science-fiction. Eh bien, désir bientôt comblé, on en avait déjà parlé, avec cette suite du Blade Runner de Ridley Scott, dont il entame la longue pré-production avec un budget d'environ 180 millions. Le film ne gagnera les écrans qu'à la fin de 2017. J'ai quelques opinions pour vous maintenant, avant de céder le micro à Christiane Campagna pour le bulletin du handicap.
Thank you.
Alors, au sujet de la confrontation entre Mike Ward et le petit Jérémy, quelques lettres d'abord extraites du journal de Montréal. Mike Ward, Jérémy et la meute. Je ne sais trop qu'en dire. Peut-être que Mike Ward réagit comme les enfants qui se moquent des petits vieux ou des clochards sur les trottoirs sans trop réfléchir, sans se rendre compte qu'ils se réjouissent au fond d'être normaux, sans le poids d'une difformité ou d'un atavisme quelconque, ce qui pourrait bien être leur seule excuse. En réalité, plus de bêtises que de vraie méchanceté. Il faudrait savoir ce qu'en pense M. Ward lui-même. Cela dit, sans vouloir limiter sa liberté d'expression, qui comporte ses risques et périls, dont celui d'être moqué à son tour, écrit Hubert Saint-Germain. Un autre avis de Pierre Sévigny, Saint-Basile-le-Grand, qui dit « Pour moi, la question n'est pas de savoir si les blagues de Mike Ward sur le petit Jérémy sont drôles ou pas, comme de savoir si un Picasso, c'est de l'art ou pas. Je pense plutôt que si la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, l'humour est dans l'esprit de celui qui l'entend. » Ariane Tremblay est très fâchée après Madame Lise Ravary, qui l'a beaucoup offusquée avec sa colère sur les pitbulls qui notamment ont été utilisés comme des chiens de combat. Et oui, malheureusement, cette pratique existe encore. Cependant, dit Madame Ariane Tremblay, le caractère des pitbulls vient avec celui des maîtres. Si les maîtres veulent un chien de garde qui sera utilisé pour leur protection, le maître nourrira son agressivité. Et oui, le chien vivra en retour une situation de stress. Le chien sera prêt à bondir. Cela pourrait arriver à un caniche, mais les caniches ne sont pas menaçants physiquement. Un pitbull bien élevé pourrait avoir exactement le même caractère qu'un labrador, écrit cette dame. Oui, la petite fille s'est fait attaquer et c'est terriblement malheureux. Mais il a dû se passer un déclic dans la tête du chien pour qu'il réagisse ainsi. Et Kate Belzile, sur le même sujet, dit « Pourquoi se fier aux histoires d'horreur qu'on entend sur les pitbulls ? Il y en a tellement qui sont de merveilleux chiens de famille. Mon chien a été sociabilisé depuis sa naissance aux autres chiens dans les parcs à chiens et voit souvent des enfants. Et les gens du parc sont les premiers à dire qu'il n'a pas d'agressivité, que c'est une pantoufle incroyable. Je suis d'accord que certains maîtres ne devraient pas en avoir, car il leur faut beaucoup de discipline. Mais il ne faut pas mettre tous les chiens de cette race dans le même bateau. Le pitbull n'est clairement pas une arme. » Puis pour terminer, André Sirois est avocat auprès de l'ONU. C'est un retraité de l'ONU et il dit que le Canada doit se retirer du Conseil des droits de l'homme à cause de la nomination de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite. Il dit « On cherche en vain une déclaration de l'ambassadeur Trad à la suite de sa nomination. Tout ce que j'ai trouvé sur Internet est une déclaration de vendredi dernier où il condamne le récent rapport de l'ONU contre la peine de mort. » Rappelons que le rôle principal du panel du Conseil est de nommer les cinq hauts fonctionnaires qui déterminent les normes internationales en matière de droits de la personne, de choisir les experts qui vont occuper plus de 77 postes relatifs à la défense des droits de l'homme dans différentes régions du monde et d'informer sur les violations des droits de la personne. Il convient de rappeler, dit cet avocat, que l'Arabie saoudite n'a jamais signé la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948, et qu'elle est universellement condamnée comme l'un des pires pays, sinon le pire, pour ce qui est du respect des droits, à un point tel que ce pays n'aurait sûrement jamais dû être accepté comme membre du Conseil. De plus, dit-il, l'article 9 stipule que les membres du Conseil observeront les normes les plus strictes en matière de promotion et de défense des droits de l'homme, ce qui disqualifie immédiatement l'Arabie saoudite. Par ailleurs, pour ce qui est de l'Arabie saoudite, rappelons qu'en mars 2015, ce pays a condamné, oui, à 10 ans de prison, le fondateur de l'une des rares organisations des droits de l'homme de ce pays, Mohamed Al-Baldaghi, sans même lui permettre d'être défendu par un avocat. Et là, il nous rappelle aussi l'exemple de Raif Badawi. Sans compter que ce pays est, après l'Iran, celui qui exécute le plus de condamnés, un nombre record chaque année. Cette nomination, conclut cet ancien avocat, dont je vais vous rappeler le nom,
André Sirois. Donc, cette nomination, conclut-il, déshonore encore plus le Conseil, si c'était possible. Il n'a plus aucune crédibilité et le Canada doit absolument s'en retirer sans hésiter et réclamer son abolition. C'est le seul geste honorable à poser pour sauver ses principes et son honneur. Il faut donc que tous les candidats, dans la présente campagne électorale, se prononcent immédiatement pour ce retrait qui, j'en suis convaincu, devrait en entraîner d'autres. On verra bien ce soir au débat. Je vous rappelle que c'est à 20h. C'est présenté sur les ondes de Radio-Canada et de Télé-Québec. J'ai failli dire Radio-Québec. Ouh là là! Ça, là, ça vous dit quel âge j'ai, mes amis. Alors, Christiane?
Vous allez passer à la régie des alcools?
Oui, je vais passer à la régie des alcools, exactement. Non, attendez, même mieux que ça. Avant, c'était, comment on disait, avant la régie, il y avait même un autre mot.
Ah oui?
À la... Ah, attends, comment on disait? Ça va me revenir. Je vous laisse parce que vous allez prendre le micro dans quelques secondes pour le bulletin du handicap. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous tout le monde demain matin à 10h. Merci, Rémi.
À 9h.
À 9h, pardon, merci.
Bonjour, je suis Gérald Cousineau, auteur biographe au Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Vous écoutez Canal M, la radio de Vues et Voix.
Canal M, pour voir autrement.